France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
L'histoire et la littérature ont une fonction commune, produire des récits, réels ou fictifs, auxquels nous nous identifions et qui changent notre perception du monde. Le principe d'identification en est sans doute pour beaucoup. Chacun s'est déjà identifié à un personnage de roman ou à un personnage historique, ou du moins a vu dans ce personnage ce qu'il ou elle voulait devenir. Ce sont ces êtres, morts ou vivants, ayant vécu ou inventé de toutes pièces, qui nous aident à nous construire, à faire les choix qui orientent la trajectoire de notre vie tout entière. C'est à travers ces figures que l'on peut retracer à la fois notre mythologie personnelle et la mythologie partagée par des sociétés entières. La vision que l'on a de l'amour et du couple est loin d'être une exception. C'est sans doute l'une des choses les plus représentées dans nos productions culturelles, littéraires notamment, mais pas seulement. Quelques exemples historiques, et pas toujours les plus connus aujourd'hui, défraient également la chronique et donnent à voir des modes de relation, de sentiments d'une telle intensité qu'ils ne peuvent que faire rêver celles et ceux qui les contemplent. Ce deuxième épisode de la série « Le couple, mythe et réalité » de Colette Garrigue et Harold Portnoy pour Recherche de notre temps revient sur ces couples de l'histoire et de la littérature qui ont construit notre notion moderne de l'amour, parfois bien avant que celui-ci soit le motif principal de l'union de deux êtres aux yeux de la religion et de la loi. Une émission réalisée par Paul Ventre avec Philippe Ariès, Pierre-Henri Simon et Maurice de Candiac, diffusée pour la première fois le 26 avril 1966 sur France Culture.
France Culture présente Recherche de notre temps. Recherche de notre temps. Le couple, mythe et réalité. Une suite d'émissions composées par Colette Garrigue avec la collaboration d'Harold Portnoy. Aujourd'hui, seconde émission, les couples de l'histoire et de la littérature, avec la participation de Philippe Ariès, historien, Maurice de Gandillac, professeur à la Sorbonne, et Pierre-Henri Simon. Assistant Jacques Devin, réalisation Paul Ventre.
Nous évoquions au cours de l'émission précédente les mythes universels du couple, ces images à la fois religieuses et cosmogoniques qui mêlent dans une étroite relation le sexe et le sacré et représentent symboliquement l'attraction éternelle de l'homme et de la femme. Comment faire apparaître aujourd'hui les modèles et les constantes du couple, sinon par la confrontation des époques et de l'histoire ? Et par les grands thèmes de la littérature où culminent tout au long des siècles le chant et les drames de l'amour. Nous demanderons d'abord à l'historien à quel moment émerge cette notion de couple dans l'histoire et dans quels mots, dans quel langage elle a pris racine. Philippe Ariès.
Il est difficile de savoir si la notion de couple existait ou n'existait pas au Moyen Âge. Mais ce qui me paraît d'un accès plus facile, c'est l'étude des mots qui pouvaient signifier ce que nous entendons aujourd'hui par la notion de couple. Or, il est bien certain que ces mots n'existaient pas ou n'avaient pas du tout le sens que nous leur donnons aujourd'hui. Prenons le mot de couple. Qu'est-ce que veut dire couple ? Couple signifie, à l'origine, la laisse qui retenait ensemble deux chiens ou deux chevaux. C'est, en somme, un terme de vénerie. Bien entendu, le sens du mot a évolué. Il est resté presque le même dans un certain nombre de termes techniques. Quelques-uns étant sortis de l'usage, on disait « la couple d'une boîte » pour dire « la charnière d'une boîte ». Le couple en physique est certainement quelque chose d'encore assez proche de ce sens ancien. Par la suite, le mot « couple » est passé de la laisse qui attachait deux êtres ou deux objets aux êtres et aux objets eux-mêmes. On dira un couple de bœufs. On disait ça encore dans nos campagnes il n'y a pas tellement longtemps. On dira, dans un sens plus abstrait, le couple de l'âme et du corps, ou le couple de la chair, ce qui entendait le couple de la chair et de l'esprit.
En somme des contraires, alors.
En somme des contraires. Ou alors, pas nécessairement des contraires, puisque apparaît assez vite un sens qui va être très courant, très commun, très répandu, le couple d'amis. Mais nous ne voyons, pour ainsi dire, presque jamais apparaître le mot « couple » pour désigner le groupe sexué de l'homme et de la femme, ou même du mâle et de la femelle. C'est d'autant plus curieux que le sens, alors non pas seulement sexué, mais sexuel, existait dans le latin du Moyen Âge. On parlait de « copula carnalis » pour parler de l'accouplement charnel. Mais cette expression n'est pas passée du latin dans le français, du moins dans le français commun, c'est à peine si on le trouve dans quelques traductions du XVIe siècle. Le sens sexué apparaît, je crois, d'une manière tout à fait certaine au XVIIe siècle. Nous voyons à partir de la fin du XVIe et surtout au XVIIe siècle la notion de mariage prendre de la rigidité, prendre de la précision. On sait exactement à quel moment on se marie. Il y a des textes, il y a des registres paroissiaux qui en font état. Et en même temps que le mariage adopte cette précision, l'enfant va prendre dans la famille une place croissante. Il y a synchronisme entre la naissance du couple marié et la naissance de la famille, si l'on peut dire, d'une famille qui se constitue autour de l'enfant. Ce qui est difficile, c'est de comprendre comment on est passé de cette période où surgit le groupe de l'homme et de la femme, où surgit en même temps le groupe de la famille, c'est-à-dire des parents et des enfants, qui surgissent exactement en même temps, comment on est passé de cette confusion, de ce que nous appelons aujourd'hui le couple, à l'intérieur d'une famille plus étendue, comment est-on passé de cela à cette tentative moderne de particulariser le couple par rapport au reste de la famille, d'une famille pourtant restreinte.
Cette tentative est-elle si moderne, après tout ? Et ne rencontre-t-on pas, au cours de l'histoire, des couples qui ont vécu à l'extrême cette singularité ? N'est-ce pas l'exemple que nous offrent Héloïse et Abélard, Maurice de Gandillac ?
Parmi les couples célèbres du Moyen Âge, le plus connu est peut-être le couple fictif, et d'une grande importance pour l'histoire de l'amour-passion, celui de Tristan et d'Iseult, avec le thème du philtre. Mais à côté de ce couple fictif, il existe aussi un couple réel, peut-être un peu littérarisé, par le fait que les lettres d'Héloïse et d'Abélard ont été revues et sont vraiment des œuvres littéraires, mais un couple réel, dont l'existence historique est attestée de maintes façons, qui a joué un grand rôle dans l'histoire, le caractère le plus apparent des rapports entre les deux membres de ce couple, Abélard et Héloïse, c'est qu'il s'agit de deux intellectuels et que c'est peut-être cela qui rend le plus original l'amour d'Abélard et d'Héloïse dans l'histoire. Je me demande si ce n'est pas, à proprement parler, le premier couple d'intellectuels. En tout cas, c'est un de ceux où la femme a joué un rôle dominant, dans un tout autre sens que pour les troubadours, qui sont à peu près contemporains et avec lesquels on a comparé quelquefois ce type d'amour. Rien de tel dans le couple d'Abélard et d'Héloïse. Mais ce qui est commun avec l'amour courtois, c'est le fait que la femme joue le rôle le plus actif sur le plan de l'amour. C'est la femme qui est une amoureuse. Abélard apparaît dans l'histoire au départ comme un séducteur, du type le plus banal. Mais l'amoureuse passionnée est dès le départ Héloïse. Cet amour est totalement désintéressé. Et nous le verrons, désintéressé sans être platoniquement désincarné. Je veux dire par là que dès le moment où Abélard s'est trouvé, pour des raisons que tout le monde connaît, privé des possibilités d'exercer de la façon la plus matérielle ses droits d'amoureux, d'amant et même de mari, puisqu'il était marié, Héloïse lui est restée entièrement et totalement dévouée et a continué à l'aimer, et que cet amour ne s'est pas désincarné, puisqu'il s'est nourri en très grande partie du souvenir de l'époque où Abélard n'était pas encore mutilé. Il rencontra Héloïse tout aux environs de l'actuelle Notre-Dame. C'est dans ce quartier qu'habitait un chanoine de la cathédrale de Paris qui s'appelait le chanoine Fulbert. Et il avait une nièce. Une nièce, les méchantes langues disaient qu'elle était peut-être plus qu'une nièce pour lui. En tout cas, il jouait auprès d'elle le rôle de père. Elle avait 17 ans, elle était belle. Héloïse, c'est le même nom que Alice. Elle était déjà célèbre, nous dit-on, par sa beauté et par sa culture précoce. Les femmes n'étaient pas tellement instruites au XIIe siècle. Héloïse avait besoin d'un précepteur pour perfectionner ses connaissances. Abélard était l'homme tout désigné. Je passe sur les détails. Je vous ai dit au début, séducteur du type le plus classique, c'est-à-dire cherchant une aventure plaisante, tout en estimant très profondément Héloïse. Mais, du côté d'Héloïse, dès le début, un attachement total, qui se montrera tout au long de sa correspondance, ou même, beaucoup plus tard, devenue religieuse, étant abbesse au Paraclet, elle lui écrira des lettres absolument passionnées, lui disant « Je suis tout entière à toi ». Et ceci dès le début. Pourquoi ne se sont-ils pas tout simplement mariés? Mais là, nous touchons à un problème que je ne peux qu'effleurer. C'est le problème matrimonial dans la tradition de l'Antiquité et du Moyen-Âge. Oh, tradition qui s'est prolongée bien après et qui est encore vivante dans une partie de notre littérature. Si vous songez à Claudel, par exemple, il est certain que le mariage ne joue qu'un rôle très secondaire dans l'œuvre de Claudel et que Claudel n'imaginait pas réellement, semble-t-il, un mariage d'amour passionné. Chaque fois qu'il y a un couple, c'est un couple irrégulier, d'une façon ou de l'autre. Un couple pour lequel le mariage est impossible. Et qui n'a à pleine valeur que parce que le mariage est précisément impossible. Le thème de l'adultère, dans la tradition médiévale, a fait l'objet de beaucoup d'études. On le trouve à la fois chez les troubadours, dans les romans de la série Tristan et Iseult, on le trouve aussi chez Chrétien de Troyes, et il correspond certainement à une réalité historique. Le mariage apparaît dans la littérature médiévale comme exceptionnellement un mariage d'amour. Il est le plus souvent lié soit à des raisons d'argent, à des raisons de famille, soit alors, dans des cas extrêmes, comme celui de Griselidis, à une soumission totale de la femme à l'homme, l'homme l'éprouvant la considérant comme un être qui lui doit tout et qu'il soumet à toutes sortes d'épreuves pour s'assurer de sa parfaite et complète fidélité. Le cas d'Héloïse et d'Abélard est particulièrement typique parce que rien ne s'opposait à ce mariage. Les historiens nous ont prouvé, par des arguments très sérieux, que Abélard n'était pas prêtre à l'époque où il a connu Héloïse, que d'autre part, même Utile était prêtre. Dans ce début du XIIe siècle, l'obstacle était beaucoup moins marqué qu'il ne le fut dans les générations suivantes. Nous sommes à l'époque où s'installe la règle du célibat ecclésiastique d'une façon formelle. Mais nous sommes encore en un temps où, en tout cas, le concubinage, et le concubinage est considéré comme un quasi-mariage, est très fréquent. Mais il n'était pas prêtre. Par conséquent, il pouvait avoir un mariage parfaitement régulier. Pour quelles raisons ne se sont-ils pas mariés? Ou tout simplement parce qu'Héloïse ne l'a pas voulu. Et pourquoi Héloïse ne l'a pas voulu? Parce qu'elle a eu l'impression, et elle le dit longuement dans ses lettres, que je n'ai malheureusement pas le temps de citer, mais qui sont très faciles à trouver. Il en existe même maintenant une édition dans un livre de poche. Eh bien, Héloïse explique dans ses lettres, tout simplement, que si elle avait épousé Abélard, d'abord, ils auraient été liés par un lien juridique et sacramentel qui se fût surajouté inutilement à un lien beaucoup plus profond et fondamental qu'est celui de l'amour lui-même. Mais surtout, qu'à ce moment-là, Abélard aurait eu une obligation envers Héloïse. Or, c'est ce qu'Héloïse refuse. Héloïse, par conséquent, représente l'idéal, peut-être impossible, de l'amour désintéressé, qui n'exige pas du partenaire un retour. En réalité, elle l'exige de maintes façons, mais elle ne l'exige pas sur le plan juridique. Héloïse désire que Abélard soit totalement libre vis-à-vis d'elle, et en particulier libre pour sa grande œuvre. Héloïse se veut son inspiratrice, et elle ne peut être complètement son inspiratrice que si elle n'est pas en même temps sa femme, c'est-à-dire celle qui lui apporterait tous les inconvénients de la vie matrimoniale, tels qu'ils sont décrits avec complaisance par toutes sortes d'auteurs dans l'Antiquité, depuis Cicéron, et Saint Jérôme, et beaucoup de pères de l'Église, tous ces inconvénients qui tiennent au prosaïsme de la vie quotidienne. Donc, ils ne se marièrent pas d'abord, ils se marièrent ensuite, mais uniquement parce que le chanoine Fulbert, une fois qu'il eut découvert leur amour, l'exigea de telle façon qu'ils ne purent refuser. Mais ce mariage, ils n'y attachèrent ni l'un ni l'autre une importance capitale. Ce qui était capital, c'était un lien spirituel entre eux qui était bien au-delà de toutes les formules du mariage. Héloïse eut un enfant qui porta un nom étrange, Astrolabe, et dont elle ne s'occupa, semble-t-il, jamais beaucoup. Elle le laissa à une belle-sœur en Bretagne. Et Abélard s'en occupa davantage. Vous savez comment l'histoire devint tragique? Et la raison pour laquelle elle devint tragique est assez étrange et se rattache à tout ce que nous venons de dire. Héloïse et Abélard étaient d'accord, même une fois mariés secrètement, pour faire comme s'ils n'étaient pas mariés. Ils s'étaient mariés pour la forme. Or, Fulbert voulait tout autre chose. Fulbert voulait d'abord qu'il fût dit que sa filleule, sa pupille, sa nièce, eût une situation régulière socialement. Mais ça, c'était moins important peut-être à l'époque qu'à d'autres époques. Il voulait surtout qu'il fût dit qu'elle était la femme du plus illustre des clercs du moment. Madame Abélard, c'était une belle situation. Or, Abélard et Héloïse refusèrent précisément cette clause et refusèrent d'avouer qu'ils étaient mariés. Ce fut l'origine du conflit. Le conflit devint extrêmement violent jusqu'au jour où Fulbert, absolument furieux, dans une crise de rage, soudoya un certain nombre de tueurs à gages. Ils n'étaient pas ici des tueurs, mais qui étaient des dénucléataires, si on peut dire, qui infligèrent à Abélard une punition sur laquelle il n'y a pas lieu d'insister, mais qui fit de lui un homme diminué. À la suite de quoi, tout Paris, nous dit-il, défila sous ses fenêtres pour le plaindre. On peut résumer la suite, qui est la partie la plus essentielle littérairement, de façon très simple. Abélard lui-même continua sa vie de professeur, sa vie errante avec toutes sortes de difficultés. Il devint moine, il entra à Saint-Denis, mais le plus bel épisode de ses rapports ultérieurs avec celle dont il se sépara après cet incident, ou cet accident terrible, c'est celui du Paraclet. Héloïse fut une excellente religieuse, mais ce qui est très curieux, c'est que pendant tout le temps où elle resta au Paraclet, c'est-à-dire jusqu'à sa mort, 20 ans après la mort d'Abélard lui-même, elle ne cessa de songer à Abélard et de revivre son amour. Il y a une sorte de dualité. Si vous lisez les lettres d'Héloïse, vous voyez d'une part des réflexions d'une religieuse ferme, solide, pieuse, mais pas bigote le moins du monde, et d'autre part, nous y voyons l'amoureuse passionnée qui écrit à Abélard « Tu sais que j'aurais toujours et de tout temps préféré être ta courtisane, dit-elle, ta méritrix, n'est-ce pas, plutôt que d'être ta femme. Et tu sais que jusqu'au bout, je serai ton épouse. À jamais. » Alors que Abélard, dans ses lettres, emploie une toute autre expression. Il lui dit « Moi, je te considère maintenant comme ma sœur. » Et Héloïse refuse entièrement cette idée. Elle veut être son épouse et en même temps sa vassale. C'est elle qui est toujours et complètement dévouée à lui jusqu'au bout.
L'amour moderne, on n'y pense pas assez, n'est pas né avec Tristan et Iseult, mais avec Héloïse et Abélard, affamés de réel, avides de vivre leur amour temporellement. De tous les degrés de l'amour, nous n'en négligeâmes aucun et nous y ajoutâmes les plus étranges trouvailles que l'amour put inventer, confesse Abélard. Si c'est un crime d'aimer ainsi, j'aime le crime et je suis innocent aujourd'hui bien malgré moi, proclame de son côté Héloïse. Les plaisirs amoureux que nous avons goûtés ensemble ont pour moi tant de douceur que je ne parviens pas à les détester, ni même à les chasser de mon souvenir où que j'aille. Pour Axel, le héros de Villiers de l'Isle-Adam, rien, au contraire, ne peut dépasser l'instant de la rencontre amoureuse. Et vivre l'amour ne peut que le dégrader. Ce n'est plus ici l'accomplissement de l'amour, mais sa sublimation et le détachement.
Le jour, l'aurore, Axel, regarde, quel avenir le vent. Partons, c'est l'heure, enveloppons-nous de nos manteaux. Là-bas, sous le feuillage violet, des rayons font étinceler déjà nos fourrures, nos armes. L'attelage frappe du pied dans la rosée. Oh, mon jeune amant, comme il va nous emporter sous les branches embaumées d'orage. Nous voici fuyant dans une brume radieuse. Bientôt, c'est une chaumière qui nous apparaît au chant des oiseaux avec son toit de mousse et baigné de mille perles. Quel bonheur de boire ensemble, en nous souriant debout, dans l'herbe parsemée de feuilles tombées, le lait matinal. Et nous fuyons. Bientôt, voici des humains sur les routes, puis un village, puis une ville, des villes, puis le soleil, puis le monde.
Sarah, je te remercie de t'avoir vu. Je suis heureux, ô ma Liliale épousée, ma maîtresse, ma vierge, ma vie. Je suis heureux que nous soyons ici ensemble, pleins de jeunesse et d'espérance, pénétrés d'un sentiment vraiment immortel, seuls dominateurs inconnus et tout rayonnant de cet or mystérieux. Perdu au fond de ce manoir, pendant cette effrayante nuit.
Là-bas, Tout nous appelle, Axel. Mon unique maître, mon amour, la jeunesse, la liberté, le vertige de notre puissance et, qui sait, de grandes causes à défendre, tous les rêves à réaliser.
À quoi bon les réaliser? Ils sont si beaux.
Mon bien-aimé, que veux-tu dire?
Laisse tomber ces draperies, Sarah. J'ai assez vu le soleil.
Pâle et les yeux fixés à terre, il médite quelques projets.
Sans doute. Un dieu me jalouse en cet instant. Moi qui peux mourir.
Axel. Axel. M'oublies-tu déjà pour des pensées divines? Viens. Voici la terre. Viens vivre.
Vivre. Non. Notre existence est remplie et sa coupe déborde. Quel sablier comptera les heures de cette nuit? L'avenir? Sarah, crois en cette parole. Nous venons de l'épuiser. Toutes les réalités demain, que seraient-elles en comparaison des mirages que nous venons de vivre? À quoi bon monnayer à l'exemple des lâches humains nos anciens frères? Cette drachme d'or à l'effigie du rêve, obol du Styx, qui scintille entre nos mains triomphales. La qualité de notre espoir ne nous permet plus la terre. Que demander sinon de pâles reflets de tels instants à cette misérable étoile où s'attarde notre mélancolie? La terre, dis-tu? Qu'a-t-elle donc jamais réalisé, cette goutte de fange glacée dont l'heure ne sait que mentir au milieu du ciel? C'est elle, ne le vois-tu pas, qui est devenue l'illusion? Reconnais-le, Sarah. Nous avons détruit dans nos étranges cœurs l'amour de la vie. Et c'est bien en réalité que nous sommes devenus nos âmes. Accepter désormais de vivre ne serait plus qu'un sacrilège envers nous-mêmes. Vivre. Les serviteurs feront cela pour nous. Rassasiés pour une éternité, levons-nous de table et en toute justice, laissons aux malheureux dont la nature est de ne pouvoir mesurer qu'à la sensation la valeur des réalités, le soin de ramasser les miettes du festin. J'ai trop pensé pour daigner agir.
Ce double thème de la réalisation amoureuse et du renoncement qui laisse l'amour intact ou le sauve de l'échec se rencontrera tout au long de la littérature. Pierre-Henri Simon.
Il y a une idée que je voudrais tout de suite illustrer, c'est que la psychologie du couple, qui est devenue tellement importante dans la littérature, disons depuis 200 ans, l'était beaucoup moins auparavant, et spécialement l'était beaucoup moins dans la littérature ancienne, dans la littérature classique. Évidemment, on trouve des couples illustres, aînés, Didon, Andromaque, Hector, que sais-je, mais en fait, c'est bien la littérature chrétienne qui paraît avoir valorisé l'amour humain. On rencontre ici une thèse célèbre, c'est celle qui a été développée d'une manière particulièrement brillante par Denis de Rougemont dans L'amour et l'Occident. Pour lui, comme pour d'autres historiens, la psychologie moderne de l'amour naîtrait non précisément du christianisme, mais d'une hérésie chrétienne, de l'hérésie cathare. Il est entendu que le monde de la chair est condamné, L'amour conjugal relève du monde de la chair, puisqu'il tend à la procréation. Il ne pourra donc jamais être parfait. L'amour parfait apparaît en dehors du domaine proprement charnel. Il apparaît quand arrive un troisième personnage qui n'est pas l'époux et qui apporte la notion et l'occasion de l'absolu dans l'amour. Enfin, c'est le célèbre trio Tristan, Iseult, le remarque. Et en fait, toute la psychologie romanesque dans la littérature de l'Occident relève peu ou prou de ce rapport, de ce trio. C'est aussi vrai pour la princesse de Clèves que pour Anna Karénine, par exemple. Et de fait, la psychologie du couple se réfère toujours à cette difficulté qui est surtout celle du couple conjugal, c'est qu'il faut, dans un mode d'existence qui est soumis à des réalités très précises, non pas seulement celle de la procréation, mais celle de l'existence quotidienne avec toutes ses médiocrités. Il s'agit de durer, il s'agit de sauver l'amour. Et là, c'est un problème que les romanciers, en vérité, ne se lassent pas de poser, et spécialement en notre XXe siècle. Il est certain que ce qu'on a appelé l'existentialisme, en fixant l'attention de l'écrivain, et spécialement du romancier, sur les modes concrets de l'existence, rencontrer le problème du couple. Et ici, c'est surtout Simone de Beauvoir qu'il faudrait interroger. C'est l'auteur de L'Invité, des Mandarins. Le pessimisme habituel dans cette littérature depuis 1950 a généralement nuancé la psychologie du couple d'idées assez sombres en même temps que l'érotisme qui déferlait sur le roman donnait de l'amour humain et spécialement de l'amour du couple marié des visions plus précise, plus charnelle, et je le répète, souvent plus sombre, plus pessimiste. Le problème du couple étant de réaliser une durée de l'amour dans le concret de l'existence, il me semble, au plan naturellement très général, où je suis obligé de me placer ici, ne pouvant entrer dans le détail, il me semble que j'aperçois deux grandes tendances ou deux grandes pentes pour cette psychologie romanesque du couple. Il y a d'un côté des romanciers, des moralistes, qui ont développé ce que j'appellerais l'opportunisme du cœur, un certain relativisme. Mais il y a l'autre tendance, la tendance qui, au contraire, pense que l'amour, en général, et l'amour du couple en particulier, et même du couple marié, et surtout peut-être du couple marié, ne peut tenir que s'il est soutenu par la référence à quelque absolu. Ce peut être, et les romanciers chrétiens éclaireront cela, un absolu de nature religieuse. Il y a le sacrement, il y a le respect d'un lien qui a été authentifié, en quelque sorte, par la volonté de Dieu. Chez des non-croyants, l'absolu pourrait être d'une autre nature. Ce pourrait être, par exemple, la foi partagée par les deux personnes qui constituent le couple, la foi dans un grand idéal politique ou historique, révolutionnaire. Je pense ici au sang des autres de Simone de Beauvoir, et l'on trouvera quelque chose du même ordre dans La condition humaine de Malraux. L'absolu peut être d'une nature plus métaphysique, et ici je pense peut-être moins à des romanciers qu'à des théoriciens, et en particulier au livre de Suzanne Lillard, Le couple, qui se référant à des idées philosophiques remontant très haut, à des mythes, puisque c'est le mythe de l'androgyne, au fond, qui est derrière cela, voit dans l'amour du couple la réalisation d'une unité perdue. Nous sommes en pleine métaphysique.
Mais retrouve-t-on dans la littérature moderne ce modèle du couple tel que vous l'avez cité au début de cet entretien en parlant de la trilogie formée par Tristan, Iseut et le roi Marc?
Oui, on le retrouve partout. Très fréquemment, cette idée que l'amour ne peut surgir dans sa perfection qu'en dehors du couple, ou tout au moins qu'une tentation est de ce côté. Et alors ici, je n'en finirai pas de vous citer des exemples. Ce qui est important, c'est qu'il y a là une psychologie derrière, voyez-vous. Cette psychologie que la vie du couple est menacée par la difficulté de durer, il faut toujours revenir là, et par la médiocrité du quotidien qui pèse sur l'amour, de telle sorte qu'à un certain moment, un des membres du couple, et parfois tous les deux, sont tentés par l'aventure qui se présente avec le prestige d'un absolu possible.
C'est ça, ce troisième terme est peut-être une menace nécessaire.
Oui, alors il y a des cas où ça réussit, mais je dois dire que généralement, on constate plutôt l'échec dans la littérature. La littérature est plus souvent le procès-verbal d'un échec que d'une réussite.
C'était « Le couple, mythe et réalité ». Une suite d'émissions composée par Colette Garrigue avec la collaboration d'Harold Portnoy. Aujourd'hui, seconde émission, les couples de l'histoire et de la littérature. Avec la participation de Philippe Ariès, historien, Maurice de Gandillac, professeur à la Sorbonne, et Pierre-Henri Simon. Présentation dite par René Farabet. Texte lu par Ginette Franck et Bernard Jousset. Assistant Jacques Devin. Réalisation Paul Ventre.
C'était Les couples de l'histoire et de la littérature, le deuxième épisode de la série Le couple, mythe et réalité, de Colette Garrigue et Harold Portnoy pour Recherche de notre temps. Une émission réalisée par Paul Ventre avec Philippe Ariès, Pierre-Henri Simon et Maurice de Gandillac, diffusée pour la première fois le 26 avril 1966 sur France Culture.